Chapitre 42. Le grand retournement. Samedi 15 décembre, la veille du meurtre. 23h30, au palace de Verbier. Les lieux avaient retrouvé leur calme, mais c'était le silence désolé qui suit un cataclysme. Dans la salle de bal, les employés de l'hôtel s'efforçaient d'effacer les traces du chaos qui régnait encore ici quelques heures plus tôt. Tous les malades, répartis dans les différents hôpitaux de la région, étaient saufs. La plupart resteraient en observation pour la nuit, simple précaution, car plus aucun cas ne suscitait l'inquiétude à présent. On n'avait à déplorer aucune victime. Les médecins avaient parlé d'un cas d'intoxication, quelque chose dans les petits fours sans doute, le saumon, le foie gras. La police avait alerté les autorités sanitaires et des prélèvements étaient en cours dans les cuisines de l'hôtel. Monsieur Rose, au sans-coup, faisait vider toutes les chambres froides et jeter toute la nourriture qui s'y trouvait. « Je ne veux prendre aucun risque », répétait-il à sa brigade de cuisiniers qui eux-mêmes promettaient de passer un savon à tous leurs fournisseurs. Sans toutefois comprendre ce qui avait pu se passer, tous les produits qu'ils utilisaient étaient de première fraîcheur et de première qualité. Dans sa suite au sixième étage, Lève bouclait sa valise sous le regard inquiet d'Anastasia. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-elle. Lève venait de rentrer de l'hôpital de Sion. Après avoir été pris en charge par les médecins, il s'était rapidement senti mieux. On lui avait conseillé de rester en observation, mais il avait tenu à retourner au palace au plus vite. « Tout va bien, » assura-t-il à Anastasia. « Ne t'inquiète pas. Tu te sens capable de voyager ? Nous pouvons attendre demain. N'attendons plus. Ça fait trop longtemps que nous repoussons ce moment. » Elle acquiesça. Il avait raison. À côté de la porte, son sac à elle, prêt depuis des jours, était le témoin de plusieurs départs ratés. Il devait s'en aller, maintenant, disparaître ensemble. Oublier Genève et la banque, et tout ce qui s'était passé ces 15 dernières années. « Je ne sais pas ce qui se passe ici, » dit alors Lève, « mais je doute que ces malaises soient de simples intoxications. Pourquoi ?» demanda Anastasia. « Parce que j'ai été malade alors que je n'ai rien mangé. J'ai seulement bu une coupe de champagne et quelques gorgées d'un cocktail à base de vodka que j'ai trouvé infect et dont je me suis débarrassé aussitôt. J'imagine mal le palace servir de l'alcool frelaté. Et puis, le plus étrange, Macaire, Tarnogol, Jean-Bénédicte et Horace Hansen n'ont pas été malades. T'en es sûr ? S'enquit Anastasia. Certain. Je les ai vus. Tout le monde était plié en deux, sauf eux. Qu'est-ce que ça signifie ? Se demanda-t-elle à haute voix, repensant au journal de Macaire dans lequel il détaillait ses projets funestes pour reprendre les rênes de la banque. N'en sais rien, dit Lève. « Mais je pense qu'il se passe quelque chose de très étrange, Anastasia. Je ne sais pas quoi, mais le plus tôt nous aurons quitté ce maudit palace, mieux je me porterai. » Ils partiraient dans une heure. Alfred était prévenu. Il viendrait les prendre à l'une des entrées de service du palace pour qu'on ne les voie pas. Il les conduirait à l'aéroport de Sion. Un avion privé les y attendrait. Tout était prévu. « Un avion privé pour quelle destination ?» demanda Anastasia. « Tu verras, » lui sourit Lève. Anastasia lui sourit en retour. La main dans sa poche, elle jouait avec la bague de fiançailles que lui avait offerte Macaire à l'époque. Elle songea soudain qu'elle ne voulait pas s'enfuir lâchement sans lui avoir dit au revoir. Elle voulait terminer leur histoire comme elle avait commencé, ici même, dans cet hôtel, 15 ans plus tôt. « Je dois régler une dernière chose, » dit-elle. « Finis ta valise, je reviens tout de suite. » Dans sa suite, Macaire jubilait. Assis dans un fauteuil, il regardait avec émotion les actions porteurs qu'une main anonyme avait glissées sous la fente de sa porte. Tarnogol avait tenu parole et lui avait restitué son dû. 15 ans plus tard, Macaire récupérait enfin la place qui était la sienne. On frappa soudain à la porte. Macaire rangea les actions dans le coffre-fort de la chambre avant d'aller ouvrir. C'était Anastasia. Elle avait l'air abattue. Il comprit aussitôt. « Entre, » lui dit-il. Comme si elle était une étrangère. Elle pénétra dans la pièce, s'assit dans un fauteuil et sortit de sa poche un objet qu'elle déposa sur une table basse, comme si elle n'en voulait plus. Macaire reconnut aussitôt le saphir qu'il lui avait offert pour la demander en mariage. Il y avait des années qu'il n'avait pas revu cette bague. « Tout est fini, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il doucement. Elle fut déstabilisée par cette réponse à laquelle elle ne s'attendait pas. Il poursuivit. « Je sais que tu vois quelqu'un, Anastasia. » Le week-end dernier, tu n'étais pas chez ton amie Véronica à Vevey. Je le sais, car avant de partir pour Madrid, j'ai voulu te faire livrer tes chocolats préférés là-bas. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. J'ai trouvé le numéro de téléphone de Véronica dans le vieux carnet d'adresses que tu gardes précieusement, et je l'ai appelé pour avoir son adresse. Mais Véronica est tombée des nues. Elle m'a dit que cela faisait des lustres que vous ne vous voyez plus. Ce n'est pas la voisine qui t'a offert les fleurs. Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Macaire avait parlé d'une voix parfaitement calme, fixant Anastasia avec une telle intensité qu'elle dut détourner le regard. « Pourquoi n'as-tu rien dit ? » finit-elle par demander d'une petite voix. « Peut-être parce que, tant que je ne t'en parlais pas, je pouvais espérer que c'était pas vrai. À mon retour de Madrid le dimanche soir, j'ai demandé à Arma de rester pendant tout ce week-end à la maison avec toi, soi-disant car tu n'aimais pas être seule. Mais en réalité, c'était pour te surveiller, pour que je puisse être ici sans imaginer que tu sois en train de coucher avec un autre. » Ils se regardèrent en silence. Il était presque minuit. Macaire comprit que la prophétie de Tarnogol s'était réalisée, à la minute près, 15 ans plus tôt, et venait de se terminer à l'instant. Il avait donné, il avait repris. « J'ai été heureux avec toi, » dit Macaire. « Moi aussi, » assura-t-elle. Après une hésitation, il demanda, sans être certain de vouloir entendre la réponse, « Qui est-il ? » « Peu importe. » « T'as raison, peu importe. L'amour est moins une alchimie que l'œuvre du temps. L'amour, c'est surtout du travail. Je te souhaite de travailler assez dur pour aimer et être aimé. » Elle laissa une larme rouler sur sa joue. Elle l'aimait, mais comme on aimait un frère, pas comme un amant. Elle lui sourit et se laissa envahir par les souvenirs de leur jeunesse, de l'homme bon qu'il avait été. Ils se regardèrent encore longuement. Soudain, des coups énergiques contre la porte les firent sursauter. À travers la cloison, Jean-Bénédicte s'annonça. « Macaire, ouvre !» ordonna-t-il d'un ton comminatoire. « Je sais que tu es là !» Macaire blêmit et ordonna à Anastasia de se cacher dans la salle de bain. Puis alla ouvrir à son cousin qui entra en trompe dans la suite. « Tu veux connaître la dernière nouvelle ? Tarnogol est venu me trouver à l'instant. Il m'a remis une lettre de démission et il quitte la banque avec effet immédiat. » Il y indique que ses actions de la banque te reviennent et qu'il te donne sa voix pour que le conseil t'élise président. Avec ma voix et la sienne, tu es donc élu président. Toutes mes félicitations, monsieur le président. » Macaire eut un sourire victorieux. Anastasia, depuis la salle de bain où elle entendait tout, sourit aussi. Elle était heureuse pour Macaire. Ils se reconstruiraient chacun de leur côté. Mais Jean-Bénédicte annonça alors. Sauf que le président... « Ce sera moi. » Macaire fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ? » demanda-t-il. « Ça fait 300 ans que les Hansen sont considérés comme des moins que rien par les Ebesner. Vous vous êtes toujours cru supérieur. Mais c'est fini. Car la banque Ebesner deviendra la banque Hansen à partir du 1er janvier. Ce sera mon nom qui sera apposé sur le bâtiment de la rue de la Coraterie. Parce que tu vas me donner les actions que t'a rendues Tarnogol. » Et que ces actions ajoutées aux miennes et à celles de mon père nous mettent dans une position intouchable. La banque appartient aux Hansen désormais. « Tu débloques complètement !» donna Macaire. Jean-Bénédicte éclata d'un rire méchant. « C'est toi qui débloques, Macaire. T'as toujours été qu'un perdant. T'as voulu trahir la banque. Tu as tenté de tuer Tarnogol et tu as empoisonné tout le monde, espèce de cinglé. » Je devrais te dénoncer à la police, mais je ne le ferai pas si tu me remets immédiatement tes actions. T'as aucune preuve de ce que tu avances. Tu es vraiment prêt à prendre ces risques? Pour l'instant, tout le monde pense que le saumon fumé n'était pas frais. Ça n'ira pas plus loin, mais il ne tient qu'à moi de tout révéler à la police. L'enquête sera rapidement bouclée. Les caméras de l'hôtel t'ont certainement filmé en train de mettre la bouteille de vodka dans le bar. Le directeur des banquets t'a vu la chercher ensuite comme un dément. « Si je parle, tout le monde corroborera mes affirmations. Je vois déjà les gros titres de la presse, Macaire et Besner, l'empoisonneur. Évidemment, je diffuserai aussi cette vidéo de toi en train d'essayer de vendre des listes de clients au fisc italien. Bonjour le scandale !» Macaire ferma les yeux et s'effondra dans un fauteuil. « C'en est fini de toi, Macaire, » lui dit Jean-Bénédicte. Macaire n'avait pas le choix. Après une longue hésitation, il se dirigea vers le coffre-fort de la chambre, ayant sorti l'enveloppe de Tarnogol. Jean-Bénédicte s'en empara et vérifia, jubilant, que les documents s'y trouvaient. « Tu ne pourras pas être président, » lui dit alors Macaire. « Mon père a expressément interdit qu'un membre du conseil lui succède.
Mais grâce à toi, la famille Hansen détient désormais la majorité des actions. C'est elle qui désigne ou révoque le président. Nous avons désormais le contrôle de la banque et nous pouvons décider de son destin. Bien entendu, tu approuveras publiquement ces changements. Et bien entendu, tu démissionneras de la banque. Je pense même qu'il est dans ton intérêt de quitter Genève et d'aller t'établir ailleurs. Avec ce que t'a laissé ton père, tu n'as pas de souci d'argent. Tu devras en profiter et t'offrir une nouvelle vie, très loin. Je ne veux plus te voir, cher cousin.
Macaire tremblait. Jean-Bénédicte lui tapota sur l'épaule d'un geste condescendant.
Tu as pris la bonne décision. Demain matin, j'organiserai une conférence de presse pour annoncer les grands changements. Je lirai la lettre de démission que Tarnogol m'a remise et j'expliquerai que tu quittes la banque pour des raisons personnelles, me confiant les navires. Les gens imagineront que tu as un cancer, ça fait toujours pitié, c'est pas mal. Allez, bonne nuit, cher cousin. Dors bien.
Il s'en alla et Anastasia, qui avait tout entendu, sortit de la salle de bain, livide.
Ishek et Mat, lui dit Maquet en étouffant un sanglot. J'ai tout perdu.
Anastasia retourna précipitamment dans la chambre de Lev. Anastasia, que t'arrive-t-il ? S'inquiéta-t-il, voyant sa mine catastrophée.
Lev, c'est un désastre.
Que se passe-t-il, bon sang ?
C'est Macaire. Il a fait une très grosse bêtise.
Elle éclata en sanglots à bout de nerfs. Il la prit dans ses bras, la réconforta.
Macaire a voulu tuer Tarnogol en empoisonnant sa vodka, lui expliqua-t-elle. Mais la bouteille a été utilisée par erreur pour préparer des cocktails.
Donc c'était un empoisonnement général ?
Oui.
Mais pourtant, il n'y a pas de victime ? Demanda Lev.
Macaire pense que les doses servies ont été trop infimes pour être mortelles. Heureusement, on n'est passé pas loin d'un terrible drame. Jean-Bénédicte a découvert les manigances de Macaire et il l'a fait chanter pour prendre le contrôle de la banque. Il vient de le forcer à lui céder la présidence de la banque.
Anastasia resta silencieuse un bref instant, comme si elle réfléchissait. Puis elle dit
« Il n'y a qu'une personne qui puisse empêcher ça. »
« Qui ?»«
Tarnogol. Je vais aller lui parler. »«
Maintenant ?»«
Il a démissionné, » expliqua-t-elle. « Il se sait menacé. Il doit être en train de faire ses valises, lui aussi. Je dois lui parler avant qu'il ne quitte l'hôtel. Macaire m'a dit qu'il était dans la chambre voisine. »«
Tarnogol est dangereux, » prévint Lev.
« Je le sais. »
La réponse abrupte d'Anastasia surprit Lev.
« Laisse-moi t'accompagner, » dit-il alors.
« Non, Lev, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. C'est entre Tarnogol et moi. Il m'a volé une partie de ma vie. C'est à cause de lui que j'ai épousé Macaire. C'est à cause de lui que toi et moi... »
Elle interrompit sa phrase. Elle n'avait pas envie d'en parler.
Elle sortit dans le couloir et frappa contre la porte voisine. Aucune réponse. Elle se baissa alors.
Au bout de quelques instants, elle vit un ray de lumière, comme si quelqu'un venait de se réveiller et d'allumer.
Elle se plaça contre la cloison et dit, sans hurler pour ne pas alerter le reste de l'étage, « Tarnogol, je sais que vous êtes là, ouvrez !»
Après quelques instants, Tarnogol ouvrit la porte, vêtue d'une robe de chambre, visiblement tirée de son lit.
« Qu'est-ce qui se passe-t-il ? »
demanda Tarnogol.
« Il se passe qu'il faut qu'on parle, vous et moi, » dit Anastasia en entrant dans la suite.
Elle planta son regard de lionne furieuse dans les yeux de Tarnogol. Elle eut une brève vision. Elle reconnaissait ses yeux. Elle se rappela ce qu'elle avait dit le matin même à Genève, au lieutenant Sagamore. « Les yeux ne trompent pas. » Elle comprit soudain et se jeta sur lui.